Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui sont venus assister à cette conférence débat ici à Minigoutte pendant le festival du film international ornithologique ce 29 octobre 2014. Et bienvenue également à tous ceux qui nous écoutent sur RCF Poitou, une conférence organisée par Poitou Charente Nature avec le soutien de la région Poitou Charente. Il y a quelques années déjà ici même, nous avions abordé la question de la réduction de l'usage des pesticides et de leur dissémination dans l'environnement. Nous étions au début d'EcoPhyto 2018 avec un objectif annoncé de réduction de 50%. Cette année, Poitou-Charentes Nature a décidé de revenir sur ce thème, mais cette fois-ci sous l'angle sanitaire et sur l'impact des pesticides sur la santé. Cette première émission, il y en aura deux, est informative. Elle sera suivie donc d'une seconde qui fera place au débat. Aujourd'hui, nous accueillons Serge Grimaud. Serge Grimaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller agricole au sein de la Chambre d'agriculture de la Vienne et vous nous présenterez les différentes étapes de l'utilisation des pesticides depuis les années 60 et vous nous ferez part de leur usage aujourd'hui et des perspectives de diminution d'avenir. À mes côtés également Julien Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire régional de la santé et vous nous ferez un état des lieux sur les connaissances disponible concernant l'impact des pesticides sur la santé. Et enfin, pour terminer cette première émission, nous avons avec nous Anagazo. Anagazo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'ATMO Poitou-Charentes et vous nous ferez part du travail de votre organisme sur la surveillance de la présence des pesticides dans l'atmosphère dans notre région. Mais tout de suite, je laisse la parole donc à Monsieur Grimaud pour nous faire un état des lieux historique sur l'usage des pesticides en agriculture depuis les années 60 et les perspectives de diminution pour l'avenir. À vous la parole.
Merci. J'ai été un petit peu étonné quand j'ai reçu cette invitation, ou du moins ma demande de participation, qu'ont fait les agriculteurs pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Je me suis dit, y a-t-il eu cette même démarche pour demander à nos concitoyens, aux autres corporations, ce qu'ils ont fait pour diminuer l'utilisation de médicaments, de détergents, de peintures, de carburants. Mais comme la question a été posée que l'agriculture est transparente, tant les contrôles y sont importants, je vais y répondre. Donc tous les produits que nous utilisons n'ont rien d'illicite, ils ont tous une AMM, une autorisation de mise sur le marché, délivrée autrefois par le ministère de l'Agriculture, maintenant c'est par l'ANSES. Donc il y a un organisme qui délivre les autorisations de mise sur le marché. Donc je suis ici pour témoigner de l'utilisation des produits phytosanitaires. Je ne suis pas responsable de leur développement, ni des autorisations de mise sur le marché. Je suis né 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu l'évolution de l'agriculture des années 60 à nos jours. J'ai vu les derniers chevaux, les derniers bœufs travailler, la moisson se faire à la moissonneuse-lieuse, les gerbes de blé dans les champs. Dans les années 60, j'ai pas toujours mangé à ma faim aussi. Hein. Vous savez, c'était compliqué dans la campagne. J'ai vu les champs de blé pleins de chardons, de rumex, coquelicots, de miel. J'ai vu les premières stabulations libres, les premières moissonneuses-batteuses, les premiers pulvérisateurs aussi. En fait, j'ai vu toute la mécanisation de l'agriculture dite moderne. Et ce, avec une attention relativement particulière, parce que je suis fils d'agriculteur. J'ai commencé mes études agricoles à Venneau en 1972, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai toujours travaillé dans la région comme conseiller agricole dans le Sivrésien, donc, et aujourd'hui je travaille avec les enfants, voire les arrière-petits-enfants d'agriculteurs que je côtoyais au début. Je tiens à vous signaler aussi que je conseille des agriculteurs en conventionnel, mais aussi quelques-uns en bio. Donc ma palette de travail est relativement importante. Alors, pourquoi en sommes-nous là? Je vous présente un premier tableau qui est évocateur de ce qui s'est passé depuis les années 60. Donc pour les auditeurs qui ne voient pas, c'est l'évolution du prix de vente de la tonne de blé, du prix de la baguette de pain et de la valeur du SMIC horaire, qui sont quelques indicateurs. Donc nous avons une forte diminution des prix, hormis l'année 2007 où ces prix étaient élevés du fait de la sécheresse en Ukraine et du feu. Les charges ont toujours augmenté, parce que vous voyez qu'entre 1990 et 2014, les charges sont passées de 824 euros à 1150 euros par hectare, que le revenu de la production qui était en 90 avant l'arrivée de la PAC de 401 euros pour un hectare de blé, est aujourd'hui à moins 100 euros, c'est-à-dire que nous avons un revenu négatif. Et ceci est compensé par les PAC qui ont fortement diminué. Aujourd'hui, un agriculteur touche à peu près en moyenne sur la céréaliculture 260 euros par hectare, qui fait un revenu qui est passé entre les années 90 de 400 à peu près 150 euros par hectare. Et en corollaire, le prix de la baguette de pain est passé de 46 centimes d'euros à 90 centimes, et le SMIC de 4,87 € brut à 9,53 €. Donc il y a toujours eu de fortes variations de rendement, de fortes variations des prix, surtout avec la réforme de la PAC depuis 1992, et une tendance lourde, c'est la chute des prix agricoles et parallèlement l'augmentation des charges. Donc il a fallu augmenter en productivité. Tous les résultats que je vais vous présenter sont issus de travaux et de recherches faites à la demande des agriculteurs. C'est des agriculteurs réunis en groupes de réflexion. Ce sont des clubs de prospective. Ils ont pour dénomination CETA, GDA, CIVAN. Je ne vais pas vous nommer ces titres exactement. En fait, dès qu'une idée se fait jour, elle est testée sur le terrain via de l'expérimentation. Nous ne faisons pas de promotion de produits de variété ou divers techniques, mais nous testons la véracité de ce qui est proposé aux agriculteurs par les fermes et l'agrofourniture. Alors, 1960, 1970, hein, c'est la fin de la mécanisation agricole. C'est un départ massif de la main-d'œuvre agricole et rurale vers les villes, et l'agriculture passe de vivrière à commerciale, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus de vendre le surplus des fermes en vue de leur commercialisation, mais l'objectif est de produire pour vendre et non plus pour se nourrir uniquement, ce qui a été un changement fondamental pour les agriculteurs à ce moment-là. Alors, je vous ai récupéré ici un certain nombre de résultats d'essais. Donc, ces résultats d'essais ont été conduits par la direction des services agricoles à l'époque, les DSA, qui étaient chargés du développement agricole. Donc, ça date de 1964. Et vous voyez que sur ces essais, c'est un essai de maïs, hein, eh bien, on parle d'herbicides, donc du désherbage, on ne marque même pas de dose. On parle du produit sans parler des doses, hein. Vous voyez, simazine, atrazine, 2,4-D. D'autres essais que j'ai récupérés, hein, qui ont été faits dans la région de Civray, parce que ça provient toujours des DSA, en campagne 68-69, nous montrent la quantité de produits qui ont été testés à l'époque, donc par les services de l'État, pour désherber du blé, 18 hectares, 15 hectares, un autre produit, 6 kilo hectares, 9 kilo hectares. En contrepartie, vous voyez des rendements qui étaient faits, ça c'était chez M. Brottier, en témoin non désherbé, on faisait 14 quintaux de blé à ce moment-là. Et le témoin qui était, enfin la partie qui était désherbée, nous arrivions à monter à 24 quintaux de blé, donc 2 tonnes 4. Voilà les niveaux de production que nous avions dans les années 60. Et en 1960, dans les années 70, 72, 78, déjà la question de la rentabilité de l'utilisation de ces traitements était faite, parce que je vous ai récupéré ici des graphes où il était marqué, ben, 3 années sur 8, les fongicides faits sur les céréales ont été rentables, c'était 1972, 1977 et 1978, et les autres années, ils n'étaient pas rentables. Donc, vous verrez, à la fin de mon exposé, ce même tableau que j'ai fait vivre, moi, que je conduis, depuis 1990, et vous aurez aussi, toujours à l'idée que nous avons cette notion de rentabilité, est-ce que c'est rentable ou est-ce que ce n'est pas rentable pour l'agriculteur, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Donc, de 1980 à 1992, il a fallu produire moins cher. Et mais surtout plus. Forte augmentation de la productivité pour contrer la baisse des prix qui avait été mis en place, l'augmentation des charges, et le modèle industriel de l'agriculture était réellement en marche à ce moment-là. Donc, je vais passer relativement rapidement sur les itinéraires techniques que je vous présente. Je les ai utilisés simplement en appui pour vous montrer à l'époque, vous voyez, c'est Serge Grimaud qui était au SLAD, hein, c'était à la Chambre d'agriculture, dans 1985, et j'avais conduit des essais de variété de colza, vous voyez les produits qui étaient utilisés, hein, et vous aurez tout à l'heure une présentation, une comparaison entre ce qui était fait à ce moment-là et ce qui est fait aujourd'hui. Alors, un autre essai qui avait été fait par des collègues, hein, où vous avez toujours la dénomination et les quantités de ces produits, et là, ça date de 81-82. Donc, 92-2005, c'est la réforme de la PAC. Apparition du risque économique, prise de conscience environnementale, nous avons eu un fort développement des outils d'aide à la décision, et il a fallu adapter la conduite des cultures avec des risques acceptables. Alors, nous avons fait trois types de conduite. Hein, chez M. Hay, qui est présent dans la salle, nous avions mis en place sur l'ensemble des cultures une conduite dite d'assurance où nous dévanions à fond l'utilisation de tout ce qui était possible. Engrais, produits de protection des plantes. Une conduite dite raisonnée, c'est-à-dire que là, nous raisonnions selon notre conviction, les savoirs que nous avions à l'époque pour pouvoir conduire les cultures en utilisant au mieux ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les semences, les engrais, l'ensemble des produits de protection des cultures. Et puis, une conduite dite économe, que j'avais appelée économique, c'est-à-dire que nous utilisions au minimum pour produire ce que nous pouvions produire avec un minimum. Donc vous avez vu, en bas, là, les quantités, enfin, les sommes dépensées, à l'époque, je les ai traduites en euros, 388 euros pour la partie assurance, 276 euros pour la partie raisonnée, et puis pour la partie économe, 214 euros. Nous sommes allés jusqu'au rendement, et vous voyez que les rendements ont suivi, mais dans le sens inverse, la productivité. Donc, la partie assurance, 95 euros, la partie raisonnée, 74, et la partie coût réduit, pratiquement 69. Donc, moins vous mettez de produits, moins vous produisez, ce qui est normal. Et nous sommes allés jusqu'aux marges, et vous voyez que les itinéraires techniques, c'était sur blé. Lorsque vous aviez une conduite assurance, nous laissait à l'époque 584 euros de marge, c'est-à-dire qu'ils laissaient moins qu'une conduite raisonnée qui était à 623 et aussi moins qu'une conduite à coût réduit qui était égale à la conduite raisonnée à 623 euros. Donc nous avons travaillé tout ceci et demain nous avons travaillé à l'adaptation des doses de tous les produits qui nous étaient mis sur le marché. Nous allons tous passer au crible. Alors un exemple, un fongicide qui est de l'Opus, il a une autorisation de mise sur le marché à 1 litre. Nous l'avons testé à 1 litre, à 0,8, 0,5, 0,25 litre. Et après 3 années d'expérimentation, nous avons ramené cette dose usuellement utilisée à 0,5 parce qu'elle était calée, le meilleur rapport qualité-prix. Autre exemple, le Callisto, qui est un herbicide pour le maïs, sa dose d'homologation est à 1,5 litre par hectare. Nous l'avons testé à 1 litre, 0,8 litre, 0,5 litre, 0,25 litre, 0,15 litre. Résultat, les doses moyennes, toujours utilisées aujourd'hui, sont calées entre 0,3 et 0,5 litre selon le développement des adventices. Alors, parallèlement à tous ces essais, nous avons largement diffusé ces conseils. Ces résultats qui nous ont amené à faire beaucoup de conseils, ça a été largement diffusé auprès des agriculteurs, souvent avec des tensions assez fortes avec les fabricants, que ce soit Bayer, Syngenta, Rhône-Poulenc, Sandoz à l'époque. Donc ça nous a valu un certain nombre de courriers nous disant que nous allions travailler à contresens, être des apprentis sorciers. Et nous avons aussi des tensions assez fortes avec les vendeurs de produits, car c'est une partie de leur vente que nous leur faisions amputer. C'est clair. Donc 2006-2014, ça a été la deuxième réforme de la PAC, c'est l'apparition de l'agroécologie, c'est la double performance économique environnementale, c'est là que le plan éco-phyto est arrivé, c'est aussi l'informatisation de l'agriculture, avec le GPS, avec la distribution de produits calés sur de la cartographie, c'est aussi le retour à l'agronomie. On commence aujourd'hui à avoir l'allongement des rotations, le retour du labour ou l'abandon du labour selon les nécessités du terrain. Donc, nous avons eu une forte évolution des quantités de matière active à la baisse parce qu'il y a eu interdiction de nombreuses molécules. Nous sommes passés de 800 à 400. L'arrivée de nouveaux produits très peu concentrés à l'hectare avec une forte baisse des doses efficaces à l'hectare. L'optimisation des décisions d'utilisation avec des modèles mathématiques qui sont de plus en plus précis et qui nous permettent d'intervenir avec des quantités moins importantes et des associations de produits permettant de baisser les doses tout en gardant de l'efficacité. Donc, vous avez ici, pour le blé, entre 1982 et 2014, l'évolution de la consommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, nous consommons 35% de la dose que nous consommions en 1982. Pour le maïs, même exercice, nous consommons 16,3% de la dose en 2014 que nous consommions en 1982. Pour le tournesol, là, il y a eu moins de progrès parce qu'il y a beaucoup moins de recherches sur les produits. Donc, simplement 70% de la quantité. Et pour le colza, eh bien, malheureusement, le colza est une plante qui est très gourmande. Nous n'avons pas arrivé encore à baisser les quantités de produits de protection des cultures sur le colza, mais nous devrions y arriver avec les produits qui vont arriver, les nouveaux produits en 2015-2016. Donc, les perspectives 2020-2025, la voie royale, c'est la sélection variétale avec de la résistance, maladie essentiellement, fort développement des outils d'aide à la décision, fort investissement des sociétés pour investir dans des solutions de biocontrôle, de défense des mécanismes naturels en les stimulant, allongement des rotations et la nécessité des herbicides cependant, je vous disais, les 25 ans de bilan de l'utilisation des fongicides en 90 et 2014, donc tout, on ne gagne pas tous les coups. Nous avons la même préoccupation que nos confrères et collègues l'avaient dans les années 70. Un des derniers travaux de recherche, nous avons fait des essais sur l'optimisation du désherbage pour avoir un rendement tout en préservant la qualité de l'eau avec le syndicat d'eau de Civray. Hein. Donc, notamment, vous avez des utilisations de produits sur le rang et du binage. Et puis, là, c'est l'évolution des tonnages de substances de matière active vendues entre 1998 et 2011. Vous voyez qu'en 98-99, nous étions aux alentours de 110-120 000 tonnes de produits utilisés. Aujourd'hui, donc 2011, c'est les dernières statistiques que je puisse avoir, nous sommes aux alentours de 62-63 000 tonnes, c'est-à-dire que nous avons en gros divisé les tonnages utilisés en France par deux, pratiquement en 20 ans. Voilà, rapidement brossé. J'ai beaucoup plus d'informations, si la salle le désire, je pourrai y revenir au moment de la table ronde.
Oui, ce sera effectivement le cas, si vous avez des questions donc à poser à monsieur Grimaud pour la deuxième partie. Je passe tout de suite la parole à Julien Giraud, donc directeur de l'Observatoire régional de la santé Poitou-Charentes, qui va nous présenter un état des lieux des connaissances disponibles sur l'impact des pesticides sur la santé humaine. Je vous donne tout de suite la parole.
Donc, de quoi je vais parler, moi, alors tu te proposes sur la relation complexe entre la santé et les pesticides, pourquoi c'est difficile à analyser, pourquoi on met tant de temps à découvrir des choses, comment c'est compliqué de parler de tout ça. Quelques éléments sur les produits, mais je ne suis pas du tout un spécialiste hein, des molécules et des substances actives. Les pesticides en France en Poitou-Charentes, l'exposition de la population. Qu'est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui? Là, évidemment, ce ne sera pas exhaustif, mais sur l'exposition de la population et sur les dosages qu'on peut faire chez dans les études qui ont pu être menées. Et puis, évidemment, ce qu'on attend tous, c'est les constats. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur les relations entre pesticides et les pathologies? Alors, juste en préambule, donc l'ORS, nous ne sommes pas des experts, nous ne faisons pas de manipulation hein, sur les produits, nous ne faisons pas d'expérience en laboratoire. Nous sommes des généralistes de la santé publique qui traitons de sujets sur les liens santé-environnement, mais à la fois sur la démographie médicale. On pourrait être comparé à des généralistes en fait de la santé publique, donc on travaille sur de nombreux thèmes, nous ne sommes pas des experts, encore une fois, de ce sujet-là en particulier, mais plutôt des généralistes de la santé publique. Alors, pourquoi c'est compliqué de parler de la relation entre santé et pesticides? Pesticides, on va le voir, la complexité, c'est la diversité des substances actives qui les composent, de leur degré de toxicité, de la diversité des usages qui peuvent en être faits. Et des utilisateurs, de la diversité des dosages qui peuvent être employés, de la rémanence des produits, de la volatilité dans l'air, etc., etc. D'un point de vue santé et d'un point de vue de la population, quelle est la diversité des populations, des applicateurs, des personnes exposées, quelles sont les voies d'exposition, est-ce qu'elles sont aériennes, alimentaires, est-ce que les expositions sont chroniques ou aiguës, les effets sanitaires sont complètement différents, quelles sont les pathologies, enfin, qui peuvent être imputables ou pas, et quelle est la fraction attribuable de la pathologie à l'utilisation du produit. Tout ça rend les choses très complexes. Si on se place au niveau de la population, comment faire le distinguo, comment analyser la relation de l'exposition d'un pesticide avec l'état de santé, le capital santé des habitants. Il faut prendre en compte leur âge, il faut prendre en compte leur capital génétique, leur activité physique. Donc, tout ça n'est pas exhaustif, hein. Leur manière de s'alimenter et leur comportement de santé, consommation d'alcool, de tabac pour les plus significatifs, leur environnement professionnel, évidemment leur recours aux soins, quelle est la façon qu'ont les gens de se soigner, quel est leur cadre de vie, quelle est leur exposition à l'air ambiante, quel est leur type d'habitat, quelles sont les pollutions intérieures ou extérieures. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut identifier comme influence des pesticides à travers tous ces facteurs de déterminants de santé chez les habitants. Donc c'est là la complexité, comment est-ce qu'on peut isoler un effet parmi tout cela pour comme impact sur la santé. Voilà une des raisons pour lesquelles c'est complexe. Le phénomène auquel sont soumis les individus, plusieurs phases, l'exposition, alors ici sur la diapositive, on parle d'exposition à l'air ambiant, mais l'exposition elle peut être alimentaire, à ce moment-là on parle d'absorption, puisque la substance rentre dans l'organisme. Ensuite on a une dose, Les produits sont soumis à des autorisations en fonction de doses qui sont fixées dans un cadre expérimental, souvent chez l'animal au début. Des doses qui, ça peut être théorique, hein, mais en tout cas, il y a toujours des doses, les DLA qui sont fixées. Donc le dosage interne, et puis l'effet toxique, le symptôme. Ce symptôme, il peut être réversible, arrive un moment où on a une détérioration et un point de rupture critique qui peut entraîner évidemment jusqu'au décès. Donc là aussi, c'est compliqué parce que les différents modes d'absorption, les différents dosages internes, les effets toxiques sont très multiples. Là, on peut classer les effets toxiques sur différents plans, la durée, est-ce que l'effet est aigu ou chronique, le type d'action, est-ce que l'impact de la molécule, de la substance active agit localement ou est-ce qu'elle est systémique sur tout l'organisme d'un coup, est-ce que le mécanisme d'action est un inhibiteur ou un stimulateur sur les choses sur lesquelles il va se fixer dans l'organisme, la voie de pénétration, est-ce que le produit va rentrer par la peau, par la voie digestive, etc., etc. Donc là aussi, multiplicité des effets toxiques potentiels. Je me suis amusé à regarder, pour analyser cette relation complexe, le nombre d'études qui étaient produites. Alors Medline, c'est une base de données de la littérature grise médicale internationale. Je me suis amusé à regarder les études avec juste simplement le mot-clé pesticide. Hein. On était multiplié par 5 en 50 ans. Tout ça pour dire qu'on est en plein dedans et on est un sujet vraiment qui intéresse beaucoup, beaucoup les chercheurs. Et vous voyez, le nombre de travaux qui sont produits est de plus en plus important et l'accélération est encore plus vive, je dirais, sur les 5, 10, 5 dernières années où là, vraiment, les travaux ont été encore plus nombreux. Des produits complexes. On peut avoir des classements en familles chimiques diverses et variées, les organochlorés, les organophosphorés, les pyréthrinoïdes, à chaque fois plein de substances actives. Alors là, dans ce tableau-là, certaines sont désormais interdites en France, hein, c'est le cas du DDT, du lindane par exemple, et le classement selon leur cible, insecticides, fongicides, herbicides, molluscicides, etc., etc. Donc là aussi, on a une diversité de substances qui sont utilisées très importantes. Des produits complexes aussi de par leur classification en termes de dangerosité et d'effets potentiels sur le corps humain. On a des classifications de l'OMS. Alors j'ai repris sur les 317 pesticides qui ont été vendus en 2005 en pot ou chance, 20 ont été classés comme extrêmement dangereux, fortement dangereux selon la classification de l'OMS. Si on prend la classification du CIRC, qui est proche hein, de l'OMS, 2 seulement ont été classés comme possiblement cancérigènes. Si on prend la classification de l'INERIS, 71 étaient classés comme toxiques, avec différents degrés, hein, mais toxiques plus, voire plus. Le Pesticide Action Network, qui est un organisme américain, en classerait, lui, sur ces 317, un peu plus de 200 comme cancérigènes possibles, probables ou certains. Et enfin, selon la réglementation européenne, 16 seraient cancérogènes, 14 seraient dangers pour la reproduction humaine et 20 seraient cancérogènes suspectés. Donc tout ça pour les mêmes substances. Donc la visibilité sur la dangerosité des produits est là aussi très complexe. Quelle classification il faut prendre et quand on les croise, on voit qu'il n'y a pas forcément de correspondance entre la dangerosité des produits. Tout ça pour dire que selon les types d'usage agricole, l'utilisation, la quantité de produits utilisés, de substances actives utilisées est très différente. Si on fait un ratio entre la surface agricole utile par type de culture et la quantité de pesticides qui est utilisée, on est sur un ratio, par exemple pour la vigne, où il y a 3% de la surface agricole utile en France qui est occupée par la vigne, et ce type de production prend à lui seul 20% de l'ensemble des pesticides qui sont vendus. Voilà une illustration, donc là aussi, selon les types d'espaces, pour territorialiser les choses, on a des usages de pesticides qui sont très, très différents. Là encore, il n'y a pas que dans le monde agricole qu'on a des usages. On estime qu'il y a entre 5 et 10% des quantités de pesticides qui sont vendus, qui sont utilisés hors territoire agricole, notamment historiquement pour l'entretien des routes ou des voies ferrées, par exemple, ou chez les particuliers. En France, il y a à peu près 5 kilos de substances actives qui sont utilisées par hectare. Et la France serait le quatrième consommateur mondial de pesticides, derrière, me semble-t-il, le Brésil, le Japon, et le troisième, les États-Unis, peut-être. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, ce sera en but. Monsieur Grimaud en a parlé tout à l'heure. On a effectivement des baisses de quantité de produits qui sont utilisés, de tonnage qui sont utilisés en France. Alors, si on reprend géographiquement, ici vous avez une petite carte, d'encarte. Alors pour les auditeurs, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut voir simplement, ici on a les dépenses en produits phyto en euros par hectare. Pour le Poitou-Charentes, j'ai zoomé un petit peu, donc on retrouve très clairement les zones viticoles, que ce soit dans le Saumur ou sur les zones de Cognac, Charente, Charente-Maritime. Voilà. Donc là, on est sur les dépenses. Les difficultés, c'est qu'on a vraiment du beaucoup de mal à identifier vraiment l'usage qui est fait. Souvent, les statistiques qui sont données, c'est sur les ventes de produits. Quelle est la réalité de leur utilisation? C'est plus compliqué à appréhender. Le plus simple, c'est effectivement de se baser sur les ventes de produits. Ça ne donne pas d'indication sur la façon dont sont utilisés les produits et si tous les stocks sont écoulés de la même année. Hein. Voilà quelques indications. Alors, l'exposition de la population, une étude qui a été menée par l'Institut national de veille sanitaire, qui est l'étude de l'ONNS, alors c'est l'étude nationale nutrition santé, qui donnait des statistiques. Alors, ils ont fait des dosages urinaires également pour voir ce qu'ils retrouvaient comme substance active dans l'organisme. Là, cette diapositive, vous pouvez voir que les personnes ont déclaré utiliser des pesticides au moins une fois par trimestre pour le traitement d'un jardin. Il y avait à peu près 18% de la population qui utilisait un pesticide dans ce cadre-là. 8% pour traiter dans son potager, 11% pour traiter des arbres fruitiers et 5% des plantes d'appartement. Au sein du domicile, on a, vous voyez, un peu plus du tiers de la population qui utilisait des produits contre les insectes. Voilà. Donc c'est un échantillon qui était représentatif de la population. Là, c'est un sous-échantillon, c'est 400 individus, donc c'est pas vraiment énorme, mais ce que cette étude disait, c'est qu'on retrouvait dans les urines des personnes des quantités de substances actives qui étaient, alors selon les familles de pesticides, plus importantes que dans beaucoup d'autres produits dans lesquels ces prélèvements avaient pu être réalisés, pour les organochlorés, pour le 2,5-DCP, qui est interdit depuis 2009, les concentrations étaient par exemple 10 fois plus élevées que dans les organismes des Allemands. Et c'était vrai pour les organophosphorés où les concentrations étaient plus élevées que dans la population canadienne ou américaine par exemple. La conclusion était qu'on avait quand même une population qui était a priori quand même plus exposée que dans beaucoup d'autres produits. Et alors, quelles sont les pathologies dont on peut aujourd'hui dire qu'elles ont un lien avéré avec l'exposition aux pesticides? En 2007, j'ai mis l'Académie nationale de médecine, disait le lien entre pesticides et cancer ne repose sur aucune donnée solide. Aujourd'hui, vous allez voir que la dernière étude date qui est une revue de la littérature menée par l'INSERM en 2013 montre bien et elle affirme hein, que les liens sont désormais avérés entre un certain nombre de pathologies, les lymphomes non-Hodgkiniens. Alors pour quelle population? Pour les agriculteurs, les applicateurs de pesticides, les ouvriers en industrie de production, là le lien est certain. Les cancers de la prostate, ça aussi ça a été démontré par de nombreuses études, là aussi pour ces mêmes populations spécifiques, le myélome multiple et la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson qui est reconnue depuis mai 2012 comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs avec la création d'un tableau spécifique de reconnaissance de ces pathologies. Voilà les pathologies aujourd'hui dont le lien est le plus fortement montré. Des liens qui sont moins fortement corrélés, je dirais, les leucémies, la maladie d'Alzheimer chez les agriculteurs, les troubles cognitifs, la fertilité chez les populations professionnelles exposées. Et puis, on a d'autres pathologies où les liens sont beaucoup plus faibles et où, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas capable de dire que le lien est significatif entre exposition et les pathologies. Chez l'enfant, on a un lien qui est avéré sur les leucémies, chez les enfants des populations professionnelles exposées pendant la grossesse, les tumeurs cérébrales et les malformations congénitales. En forme de conclusion, et alors, en Poitou-Charentes, est-ce qu'on est, on est malheureusement incapable de déterminer un nombre de cas qui pourraient être imputables à une exposition aux produits? Aujourd'hui, on a 120 leucémies par an en Poitou-Charentes. Quelle est la part de ces leucémies qui pourraient être imputables à une exposition aux produits? On n'est pas capable de le dire. Idem pour les myélomes multiples, les lymphomes non-Hodgkiniens, la maladie de Parkinson ou les cancers de la prostate. Donc là, tous les chiffres que vous voyez sont les effectifs de nouvelles pathologies déclarées dans la région, diagnostiquées dans la région. En forme de conclusion, voilà ce que je disais tout à l'heure, il y a eu, à mon sens, une avancée quand même significative avec la reconnaissance pour la maladie de Parkinson, la mise en place du tableau 58 pour les agriculteurs. Voilà, et le dernier mot, c'est qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de travaux sur la recherche de l'exposition de la population pour arriver à des choses beaucoup plus fines et effectivement encore sur les liens entre pathologie et exposition. Merci donc à Julien Giraud. Sans plus tarder,
Je passe la parole à Alain Gazon qui justement va nous dire peut-être plus de choses sur l'exposition de la population à travers la présence de ces pesticides dans l'air en région Poitou-Charentes.
Bonjour à tous. Moi je représente ATMO Poitou-Charentes. Donc ATMO Poitou-Charentes, c'est l'organisme de surveillance de la pollution atmosphérique sur l'ensemble de la région. Donc on est l'organisme, enfin l'observatoire de l'air agréé par le ministère de l'Environnement. Donc notre rôle, c'est de mesurer la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire, d'évaluer les populations exposées, de porter la connaissance du public. Donc tous nos résultats sont du domaine du public. Et puis c'est de donner des éléments objectifs de connaissance et puis d'apporter des éléments d'aide à la décision. Donc en ce qui concerne les pesticides, le contexte, donc, c'est qu'on a une utilisation des pesticides depuis plusieurs décennies, donc qui a conduit à une dissémination persistante dans l'environnement et naturellement dans le milieu aérien. Donc au niveau du contexte, il n'y a pas d'obligation réglementaire de surveiller les polluants dans l'air, vous le savez, ni de normes sanitaires correspondantes. En France, quand même, plusieurs à l'initiative de plusieurs associations de surveillance de la qualité de l'air comme la nôtre, donc depuis à peu près 10 ans, on a pris sur la base du volontariat, avec l'appui financier local et des partenaires locaux, l'initiative de mesurer les pesticides dans l'air. Alors pourquoi surveiller dans l'air ambiant? Déjà, ça a été rappelé, la France est un gros utilisateur de pesticides dans le monde. En Poitou-Charentes, c'est une région agricole, donc comme vous le savez, forte utilisation de pesticides. Après, il y avait des interrogations qui se posaient sur l'impact sanitaire. Ça a été rappelé, on voit qu'on n'en sait encore pas beaucoup de choses. Ensuite, on se doutait que les pesticides pouvaient être présents dans l'air. Donc du fait de la volatilisation des molécules, à partir du sol, des plantes, de l'érosion éolienne, et puis même au niveau de la dérive lors de l'épandage. Ensuite, on a un manque de connaissances certains des pesticides dans l'atmosphère. Donc c'est une composante insuffisamment renseignée, notamment parce que c'est une prise de conscience récente. Je l'ai rappelé, une absence de réglementation des pesticides dans l'air, et puis surtout les difficultés, c'est qu'il y a une diversité des molécules. Donc on a parlé de plus de 350 molécules utilisées en Poitou-Charentes, donc il y a beaucoup de molécules à rechercher. Mais n'empêche que dès 2001, nous, en Poitou-Charentes, on s'est occupé de cette problématique et on a décidé de mettre en place un programme d'études de mesure des pesticides. Donc notre objectif, c'était de constituer une base de données. Donc cette base de données, c'est pour permettre d'améliorer les connaissances dans l'air et de pouvoir mettre cette base de données à la disposition des chercheurs de santé afin de pouvoir continuer les études. Donc c'est également de donner des éléments objectifs de connaissance. Parce que avant de savoir si le malade est vraiment malade, on lui prend la température. C'est la première chose à faire. Donc on a inscrit ce programme de pesticides dans notre programme régional. Et puis c'était une forte demande locale, une forte demande locale de la région. Le conseil régional s'est intéressé et souhaitait avoir des données de la qualité de l'air sur les pesticides. Et puis on a fait ce programme-ci de surveillance dans le cadre du plan régional de santé environnement 2 avec un financement de l'ARS. Alors comment sont mesurés les pesticides? Alors, les pesticides sont mesurés par prélèvement dans l'air avec des filtres et des mousses qui nous permettent d'avoir la partie gazeuse et particulière de ces molécules dans l'atmosphère. Donc on les prélève pendant 8 jours et ensuite elles sont analysées dans un laboratoire, le laboratoire d'analyse Ianesco à Poitiers. Ianesco avait une expérience forte dans les pesticides dans l'eau, donc on a travaillé avec eux au début des années 2000 pour mettre au point une méthode de prélèvement et de mesure dans les pesticides dans l'atmosphère. Donc notre stratégie de surveillance, nous on a un site fixe, donc tous les ans on mesure sur Poitiers dans l'agglomération, et puis on a un second site mobile qui nous permet lui d'aller investiguer la pollution ou les pesticides proches des épandages. Donc ce site, deuxième site, ça nous a permis d'étudier la problématique des zones viticoles, des grandes cultures, de l'arboriculture, etc. Puis on l'a déplacé un petit peu sur toute la région pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passait sur toute la région. Donc on est allé sur Gers, La Rochelle, Niort, Mougon, Cognac, etc. Les prélèvements, on les fait de presque sur toute une année, sauf en période hivernale, parce qu'il n'y a pas de traitement. Donc on commence de février jusqu'au mois de décembre, avec des périodes d'échantillonnage plus fréquentes au moment des épandages, donc au printemps et à l'automne. Donc on surveille essentiellement trois sortes de pesticides, dont ce sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. Donc, ça a été dit tout à l'heure, en Poitou-Charentes, enfin, moi j'ai des chiffres de 2010 où on utilisait 4700 tonnes de substances actives qui ont été vendues en Poitou-Charentes. Et sur ces 4363 tonnes, il y aurait 370 substances actives. Et parmi ces 370 substances, c'est un peu beaucoup, on en recherche une cinquantaine. Alors pourquoi on recherche celle-ci? On a fait une sélection et c'est dû au tonnage utilisé. Donc c'est fort tonnage utilisé et puis bien sûr la volatilité de nos légumes. Mais si elle n'est pas volatile, on ne risque pas d'en retrouver dans l'atmosphère. Sur ces 50 utilisés, on en retrouve systématiquement 20 molécules tous les ans. Donc il y a quand même 20 molécules qui sont retrouvées dans l'atmosphère tous les ans. Bien sûr, les concentrations sont beaucoup plus fortes au moment des épandages. Ça, c'est la vérité. Au niveau de la répartition spatiale, comme on a mesuré un petit peu sur toute la région, on en a trouvé un petit peu sur toute la région également. Mais bien sûr, les concentrations en nombre et en teneur sont plus fortes plus près des zones d'épandage, mais dans les bourgs situés au milieu des zones agricoles et dans les agglomérations, on retrouve également des polluants. Donc ce n'est pas parce que vous êtes en ville que vous allez pas subir forcément la pollution atmosphérique par les pesticides. Alors, au niveau, pour étayer mes propos, je vais vous parler des dernières campagnes, des campagnes qu'on a faites en 2013 et 2012. En 2013, on s'était plus orienté sur la pollution des zones de grande culture. Nous avons fait des mesures, donc toujours sur Poitiers, parce que Poitiers, on a mesuré depuis 2003, donc c'est notre site de référence, et on a fait des mesures sur Lyon. À Lyon, c'était sur un petit hameau, enfin, un petit lotissement qui était proche des zones de d'épandage. Donc là, en zone de grande culture, on retrouve bien sûr nos 20 molécules et il y en a 5 ou 6 qui émergent tant en pourcentage qu'en concentration. Là, on a en zone de grande culture, les molécules qu'on retrouve en premier, ce sont les herbicides, qui sont des molécules pour le traitement des céréales, donc des herbicides, tels que le prosulfocar ou le pentuglyphosate, pour ceux qui connaissent. Quelques fongicides sur les céréales, tels que le chlorothalonil, et puis, donc c'est pas une surprise parce que nous, on suit depuis le départ, on a aussi des fongicides de dévigne, tels que le folpel, qu'on retrouve également sur les Poitiers. Donc, au niveau des molécules, là, on les retrouve plus fortement en période d'épandage, mais ça va être au printemps. On retrouve toute l'année avec des pics un petit peu plus élevés en période d'épandage, donc au printemps et à l'automne. Une chose, une particularité, c'était que sur Niort, on avait retrouvé des molécules d'herbicides qui étaient utilisées en dehors des zones des périodes de traitement agricole. Ce qui voulait dire que ces pesticides n'étaient pas utilisés pour justement le traitement agricole, mais pour plutôt des usages non agricoles, comme des arbrages de gazon, des arrêts, donc plus par des particuliers. Au niveau de Poitiers, ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure depuis 2003, et donc ça nous permet d'avoir une indication sur l'évolution et les tendances. Concernant les fongicides sont complètement dépendants des conditions météorologiques, donc puisqu'ils servent au traitement, surtout dans les vignes, ont pour une stabilité avec, quand les conditions telles que 2012 étaient mauvaises, on a une utilisation plus intense et donc on en trouve plus dans l'atmosphère. Au niveau des herbicides, au cours des dernières années, jusqu'en fin 2012, on notait une diminution tant en nombre qu'en concentration, et l'an dernier, en 2013, on est revenu en concentration à des valeurs qu'on avait au cours des années 2009-2010. Donc on notait une diminution au cours des années, mais maintenant ça a été un petit peu inversé l'an dernier. Pour les insecticides, par contre, on trouve une diminution, une tendance à la baisse au niveau des concentrations, qui serait peut-être aussi en adéquation avec ce que nous a montré M. Plumont au début, puisque les utilisations sont moindres. Un autre exemple, c'était celui de 2012 à Juliac-le-Coq, au pays cognatais. Donc là, on a mesuré tout au long de l'année, et là, on retrouve surtout des fongicides, c'est surtout pour le traitement des vignes, des fongicides, des phosphènes, et des insecticides, et un petit peu d'herbicides. Là, on les retrouve en concentration beaucoup plus élevée à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, ce qui correspond exactement à la période de traitement des vignes. Là, les concentrations sont beaucoup plus élevées que sur Poitiers, puisque pour les concentrations les plus élevées, il y a 65 nanogrammes par mètre cube à Gétal Juliac et seulement 2,8 nanogrammes par mètre cube sur Poitiers. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, nous avons fait aussi des mesures sur l'arboriculture. C'était sur le cas sur Secondini, où là, nous avions eu des molécules qui ressemblaient plus à des grandes cultures, avec quand même, là, il y avait trois sites de mesure, un en proche des vergers, un en bourg de Secondini, et l'autre, on paraît par rapport à Poitiers. Et là, ça ressemble quand même pas mal aux grandes cultures. Nous avons quand même des fongicides et des insecticides plus élevés en bordure de verger. Une chose qui aussi a marqué, c'est que les molécules interdites d'utilisation, on les retrouve encore de nos jours, telles que, bien sûr, le lindane. Ce sont surtout les insecticides, donc le lindane, mais pas seulement. Par exemple, en 2013, on a 6 molécules interdites d'utilisation qu'on a retrouvées. Donc il y avait 4 insecticides, le lindane, 2 DDT et l'endosulfant. Un herbicide tel que l'efluraline et un fongicide tel que le domiflunadine qui sont interdits et qu'on ne détecte pas encore. Ça, c'est important. C'est justement ça amène dans l'atmosphère de ces molécules. Bon, en termes de conclusion, la problématique, c'est qu'on manque de connaissances en matière de santé. Alors, tout le monde, en ce moment, il y a une saison de synthèse d'épaisie pour justement essayer de mieux comprendre la problématique de la pollution atmosphérique et de la santé. Et donc, il faut mettre en place un vrai système de surveillance de manière générale et visible. Et pour cela, ils vont récupérer toutes nos données. Donc, on travaille avec eux en ce moment pour récupérer toutes les données au niveau national et puis de mettre en place un plan de surveillance pour pouvoir vraiment faire ces études épidémiologiques à partir de nos données.
Merci. Donc, Alain Gazon, directeur d'APNO Poitou-Charentes. Merci également à Julien Giraud, directeur de l'Observatoire Général de la Santé, et à Serge Grimaud de la Chambre d'Agriculture pour cette première partie d'émission qui était donc à caractère informatif. Je vous invite à suivre la deuxième partie qui laissera place au débat avec ces mêmes intervenants et d'autres invités.